Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Oui, j'allais dire, comment tu ressors de ce, de t'être fait broyer, tordu
J'en suis ressorti tout neuf. Quelqu'un d'autre. Toujours le même, mais quelqu'un d'autre.
Raconte-moi plus, bah, ça m'intéresse.
Il y avait tellement de noms en moi. Du nom, du, des idées, des trucs un peu arrêtés. Tout a volé en éclats. En gros, je me suis pris un tsunami. Un raz-de-marée, tu vois, genre une crue violente qui vient, qui défonce tout. C'est sale, tu vois. C'est boueux, ça casse tout, c'est des morceaux partout, puis ça s'en va. Puis c'est tout nickel après. Et puis c'est plat, hein, c'est... c'est lisse comme ton crâne.
Merci pour cette... Merci pour cette dédicace.
Je pensais, tu vois, un truc lisse.
Ah bah, c'est lisse.
Et comme il y a une magnifique lumière sur ton crâne, ça brille.
Je suis en contre-jour.
Je me suis dit, c'est lisse, tu vois.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préférée, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Bienvenue Thomas.
Merci de m'accueillir.
Ben, merci beaucoup de venir raconter ta version à toi de ton histoire de daron pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Alors je crois que je vais les sortir en même temps. Ouais. J'ai interviewé ta chérie, ta femme. Alors je ne sais pas si vous êtes mariés ou pas.
Non, nous sommes concubins.
Concubins, donc ta compagne, mais également la mère de ta fille qui s'appelle Samantha et qui est venue me raconter son histoire. Je suis trop heureux, comme je te le disais juste avant qu'on enregistre, de pouvoir avoir les deux versions de l'histoire, les deux pans de l'histoire. Surtout, vous avez une histoire finalement de parentalité, en tout cas un début d'histoire de parentalité qui n'est pas commun.
C'est vrai.
Pour resituer un petit peu, ni l'un ni l'autre, vous étiez ensemble depuis 6 ou 8 ans, je ne sais plus exactement, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Avant la naissance de votre fille ?
Alors, 7 ans, je crois.
Ouais. Et le projet, c'était... On n'aura pas d'enfant et c'est ok et ça n'a jamais été un sujet et quand on en parlait, c'était pas... voilà, c'était...
Exactement.
Pas du tout l'idée, quoi.
Pas du tout.
Et puis, on va en parler, mais un jour, Samantha est tombée enceinte par un... Enfin, tu vas me donner ta version de l'histoire, mais de ce que j'ai l'impression d'être un peu un acte manqué, aussi bien de son côté que du tien, en termes de contraception, en termes de tout ce qui a pu se passer.
Oui.
Et en fait, vous avez décidé de garder cet enfant qui est devenu votre petite fille. Et donc aujourd'hui, vous avez basculé dans...
dans l'inverse.
Dans une vie de parent, quoi.
Exactement. Exactement.
Et c'est trop intéressant parce que je suis très heureux d'avoir ton témoignage parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez eu un cheminement qui est un peu différent tous les deux.
Et je suis très heureux de pouvoir t'entendre toi, parce que effectivement souvent j'entends soit l'un soit l'autre. Mmh. Et là je suis trop heureux de pouvoir entendre ton côté aussi. Bon, il y a pas de piège, hein, tu vois. J'imagine, enfin j'espère. En tout cas, j'imagine que vous en êtes parlé. Je sais pas si vous en êtes parlé à ce point-là d'ailleurs, parce que est-ce que vous avez débriefé un petit peu de ce qui s'est passé pour vous, pour l'un et l'autre?
On a passé notre temps à ça, en fait.
Ouais.
C'est vachement important, je trouve, de pouvoir savoir à peu près où est-ce qu'en est l'autre, mais genre un peu tout le temps, quoi. Une espèce d'audit permanente pour pas que t'aies un fossé qui se creuse entre toi et la personne. Parce que sinon, tu peux vite supposer et faire une espèce de projection de ce que toi tu penses, et en fait la personne avance pas du tout la même chose, et t'as mis trop de temps à t'en rendre compte. Et donc, du coup, il faut que tu rebrousses chemin, et parfois, c'est pas facile. Quoi. Donc, il faut faire un peu une audite permanente. Donc, en gros, il faut se parler. Quoi. C'est facile à dire. Hein.
C'est facile à dire. C'est peut-être moins facile à faire, surtout au quotidien. C'est ça, dans le quotidien d'un couple, quoi, finalement.
C'est vrai. Mais en fait, si on revient au début, pourquoi, effectivement, quand on s'est rencontrés, il n'y a pas de question d'enfant du tout. Moi, j'étais avec quelqu'un déjà depuis 13 ans. Et quand je l'ai rencontré, du coup, j'ai...
T'as 42 ans, hein. Ouais, t'as 10 ans de plus que Samantha Sao, 9 ans, 10 ans.
Ouais, donc... c'est 9 ans la moitié de l'année. Et puis c'est 10 ans. Là, moi, je suis né le 1er avril, donc tu vois, j'ai eu 42 il y a 3 jours.
Bravo.
Donc voilà. Tout le monde se rappelle de cette date d'anniversaire.
Bah oui.
Parfois à mon grand dame. Mais bon.
Bah oui, c'est un poisson.
Ouais.
C'est une blague.
C'est ça.
Ta naissance.
Ma mère, quand elle a dit « Écoute, à mon père, j'ai perdu les os, c'est le moment », mon père, il n'y a pas cru, tu vois. Pendant une heure, il n'y a pas cru, puis après, parce qu'il n'était pas là, évidemment. Et ouais. Et alors, on s'est rencontrés, donc j'ai su rapidement quand même que c'était quelqu'un avec qui j'avais envie j'avais envie d'être avec elle tout le temps. Donc du coup, bah, j'ai détruit la relation que j'avais avant. Et ça a été déjà, si tu veux, cette rencontre était marquée par des gros changements.
La fin de ta relation de 13 ans, c'est ça?
Ouais.
Ouais.
Donc, pour être avec Samantha, du coup, elle comme moi, parce qu'elle, ça faisait 5 ans qu'elle était avec quelqu'un, et moi 13, on s'est rencontrés, et en fait, très rapidement, il a fallu détruire plein de choses.
Ce que vous aviez construit auparavant, voilà. Quoi.
Donc en fait, déjà, rien que d'être avec elle... Elle, comme pour moi, déjà, c'était genre, bon, bah, ok, on retourne la table. Donc, il fallait déjà retourner la table, tu vois. Donc, tout casser et tout reconstruire, ce qui était chouette en soi. Et puis ensuite, lorsqu'on a été ensemble pendant des années et tout, il n'a jamais été question d'enfant. Mais je me rappelle, un moment donné, d'une phrase, parce que moi, on m'avait foutu la pression sur l'enfant, le mariage, quand j'étais avec mon ex-compagne.
Quand tu dis « on »,
mes parents, certains de mes amis m'avaient posé des questions. Mes parents surtout m'avaient dit « Tu sais, on est prêts, hein, y a pas de souci. »
Cette phrase.
C'est un peu chiant. Et je comprenais pas pourquoi j'étais vraiment bloqué à ce niveau-là. Mais j'ai regardé ce que je disais à l'époque à mes parents lorsque j'étais avec Samantha. Et c'était pas si... C'était j'en veux pas, mais c'était plus aussi rédhibitoire dans ma tête. Et je me souviens que lors d'une conversation comme ça, qui payait pas de mine, elle avait dit bah écoute, si un jour je tombe enceinte de toi et que tu veux le garder, ben je le garderai, quoi. Et puis on n'en a plus jamais reparlé, tu vois.
Mais genre combien de...
C'était peut-être 3 ans après qu'on soit ensemble.
Ok. Ouais. Mais donc, bien longtemps avant la naissance de votre...
Bien longtemps avant.
Ok.
Quelque chose comme ça, ouais.
C'est quand même très étonnant, hein, ce truc de pas en vouloir. En fait, il y a un peu... tu sais, les gens qui ne veulent pas d'enfants, les child-free, j'en ai vu, tu vois, dans ce podcast, qui sont vraiment... Ils ne veulent pas d'enfants par choix. C'est vraiment limite une décision politique, quoi, tu vois.
Oui.
Et on sent que chez vous, il y avait un peu un truc... c'était pas un sujet, mais en même temps, ça restait un sujet, quoi.
C'est ça. C'est parce qu'en fait, je pense qu'en fait, et je l'ai appris après, que j'avais juste en fait fait toute une construction. C'est toute une construction que tu fais autour du fait que t'as pas envie de vivre ça, mais en fait tu sais pas vraiment trop pourquoi, parce que c'est extrêmement profond à l'intérieur de toi. Donc, du coup, tu vas stratifier ton avis. En fait, tu vas tu vas ajouter des strates extérieures, comme par exemple, ouais.
Attends, tu veux dire que ton envie d'enfant, elle était très profonde, c'est ça? Elle était très profondément enfouie.
Ouais, okay. Sûrement très profondément enfouie, et ce qui fait que je pouvais pas y accéder juste par ma tête. Mm. Je suis allé voir après quelqu'un qui est allé chinter en fait ma tête, qui allait farfouiller là-dedans. Et il en est ressorti que finalement, toutes les raisons pour lesquelles je souhaitais pas d'enfant, que je voulais pas en entendre parler, c'était des résistances, mais c'était des résistances construites intellectuellement, uniquement pour combler le fait que j'arrive pas à accéder à la vraie raison.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Par exemple, je ne dis pas que c'est pour moi. Hein. Je ne dis pas que c'est pour autre chose.
Tout
mais,
est,
mais
tout
tu vois,
est
genre
ici.
Voilà l'écologie. On est trop nombreux. La situation politique du pays dans lequel tu es, c'est dramatique. Elle n'aura pas de retraite. Toutes ces choses-là qui effectivement peuvent te dire oui, bon, ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être compliqué. Puis si t'as 40 piges comme moi, ça veut dire que tes parents, ils sont nés en 49-50, donc c'est des boomers purs. Ils ont connu une époque bénie des dieux. Bénie des dieux. Et ils se posaient pas tant de questions et ça marchait bien, mais ils avaient leur lot de difficultés. Mais en fait, si tu regardes la génération d'avant, qui sont nés en 22, c'était déjà un peu moins fun, mais enfin, ils l'ont fait quand même, tu vois, et finalement, ça baigne. En fait, c'est juste un cheminement méga personnel. Et quand t'as accès en fait vraiment à ce qu'il y a en toi, tu peux prendre ta décision et finalement le reste n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est là où c'est intéressant, c'est d'aller voir les gens qui eux désirent avoir des enfants et le font. Et en fait tu te dis mais en fait ils se branlent pas autant la nouille que nous, tu vois. Donc en fait je pense que c'est à partir du moment où t'es pas chaud, où il y a un truc qui va pas, qui a été déclenché par un élément, on ne sait pas lequel, tu vas construire tout autour. Parce que si tu as envie, tu vas le faire, même si c'est la guerre. Tu vois ?
En tout cas, toi, de ton côté, il y avait un vrai truc de... Tu avais des résistances, j'ai l'impression, mentales, quoi.
Bah, à fond.
Okay.
Moi, c'était non, quoi. Non, 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 pour toutes les raisons, tu vois, genre... Voilà, l'écologie, gna gna gna, qu'est-ce que je vais offrir à mes enfants ? Et puis, je n'ai pas les moyens. Enfin, en fait, c'est faux, tu les as. Je suis trop vieux. Trop vieux aussi.
Oui,
trop tard.
C'est aussi un, trop tard, un argument, hein, tu vois.
Argument, j'ai pas envie de m'emmerder la vie, parce que finalement c'est ça. J'ai pas envie de m'emmerder la vie. Il y a un côté très égotique. Mm. C'est très auto-centré cette affaire. Et puis.
C'est très auto-centré aussi de faire un enfant.
Et alors là, on va en parler justement.
Je veux bien qu'on en parle.
On va en parler.
Je te dis ça, c'est un peu... Je suis l'avocat du diable. Hein.
Ouais, je sais, c'est ça. Mais en fait, je suis pas sûr. Mm-hmm. Je suis pas sûr. Après, j'en suis qu'au début, moi. Tu sais, j'en suis qu'au début. Hein. On en reparlera quand elle aura quelques années de plus. Mais...
Ouais, mais en vrai, j'ai un peu... Comment dire, j'ai un peu passé ce truc-là, c'est-à-dire que pour moi, à chaque âge, arrive son lot de questionnements, de prises de tête, etc. Et toi, en tant que parent, t'évolues aussi. C'est-à-dire que, ouais, c'est sûr que si je te foutais mes ados entre les pattes, là, comme ça, alors que t'as une petite qui a 18 mois, c'est sûr que peut-être ça te...
C'est pas pareil.
voilà. Mais en fait, en attendant, le chemin qui s'est passé entre les 18 mois de mes filles et leurs presque 18 ans aujourd'hui, tu vois, bah moi aussi j'ai vachement évolué. Donc
tu m'étonnes.
Tout est finalement tout arrive au moment où c'est cool quoi, tu vois. Parce que toi-même t'auras grandi en tant que parent quoi.
Mais c'est un cheminement. Hein. T'es quand même c'est vachement challengeant.
Sans deck.
Ouais. C'est hyper challengeant quoi. T'es obligé de trouver la meilleure version de toi genre là maintenant tout de suite. Mais en gros, tu disais que c'était. Moi, je te disais que c'était très égoïste, très égotique. Égoïste, c'est différent, mais égotique, c'est-à-dire vraiment, c'est centré sur toi, mais il y a un côté presque un peu involontaire. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais pas trop, effectivement, tu sais pas trop pourquoi tu veux pas. Donc, en gros, pour revenir
en tout cas, tu savais pas trop pourquoi tu voulais pas.
Oh, non, je savais pas. Donc, en gros, j'étais. En gros, là, au niveau de la contraception qu'on prenait, déjà, étant donné qu'on est assez...
Mais attends, avant de parler de contraception, ouais. J'aimerais bien qu'on reparle de tout ce cheminement qu'il y a pu avoir entre vous, où pendant donc 6 ans, 7 ans, c'était un non-sujet ou en gros, c'était vraiment...
Un non-sujet.
C'est clair que d'entrée, vous avez eu cette discussion, j'imagine, où ben, moi, j'en veux pas et toi, t'en veux pas.
Ouais. On s'est même pas posé pour se dire écoute parlons des enfants. Non, c'est juste qu'en fait à un moment donné c'est détour d'une conversation, on a dû se dire non mais moi j'en veux pas, moi non plus.
OK.
Et voilà, et sauf que il y avait toujours un espèce de point d'interrogation de se dire OK mais si jamais ça arrive, on fait quoi? Et ce point-là, il a jamais été clairement de façon tu vois genre c'était pas clair. C'était pas genre non, il y aura rien. Et c'était pas genre oui, absolument, on le garde.
Et qu'est-ce qui fait que vous avez jamais eu cette discussion? C'est incroyable parce que c'est ce qui va vous arriver en plus.
C'est ce qui va nous arriver. Parce que
vous avez l'air d'être de personnes vachement justement dans le mental, tu vois, Samantha. Alors, elle a bonne tronche aussi. Toi, bonne tronche, tu vois, je le sens. Et c'est un sujet que vous avez décidé. Peut-être, je sais pas, consciemment ou inconsciemment, de mettre de côté, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a, si on veut vraiment aller au fond des choses,
oui,
on va arriver sur probablement une sorte de porte qui a été ouverte et qu'on n'a jamais voulu vraiment refermer. Et pourquoi je voulais te parler de contraception, parce qu'en fait, le choix même de la contraception, il laisse une porte. Tu vois, parce qu'on utilisait la symptothermie.
Oui.
Donc, les gens connaissent sûrement la symptothermie, tu vois.
Non, je crois pas.
Tu crois pas?
C'est quoi la symptothermie? Et surtout, j'aimerais bien, parce que Samantha m'a raconté pourquoi, enfin pourquoi, pas pourquoi, mais comment elle gérait ce truc-là. J'ai l'impression que vous étiez un peu co-responsable de la contraception. Ça m'intéresse trop de savoir comment et pourquoi Samantha t'a rendu co-responsable de sa contraception.
Alors, c'est assez génial, en fait, ce principe. La symptothermie, c'est la méthode de contraception de notre grand-mère. Tu vois, c'est la prise de température. C'est-à-dire que tu vas avoir une température qui va être toujours assez stable, mais un moment clé de l'ovulation, ta température va augmenter. La température de la nana va augmenter genre pendant 2 ou 3 jours consécutivement. Alors avant, ils faisaient ça avec un truc en mercure, tu vois. Donc maintenant, il y a un super thermomètre, tu vois, technologique relié à une application qui permet de voir tous les cycles et tout. Mais ça veut dire qu'il faut que tu prennes ta température tous les matins à la même heure. Il faut que tu aies quand même une espèce de rigueur en toi. C'est pas impossible parce que les femmes qui prennent la pilule ont cette rigueur d'avaler une pilule tous les matins. Donc finalement, ça se vaut, c'est la même chose, tu vois. Mais il y a une fenêtre, tu vois, dans le mois, qui peut être plus ou moins longue, dans lequel il y a un risque assez élevé de tomber enceinte, tu vois.
La preuve.
Et par contre, une fois que cette fenêtre est fermée, c'est fini. Bah c'est open bar, quoi, tu vois, c'est cool. Donc finalement, au moment de la fenêtre un peu chaude, toi, tu vas mettre un capote ou un truc comme ça. Ou bien tu t'abstiens, c'est comme tu veux. Mais en fait, en gros, tu vas faire quelque chose qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque. Voilà. Et pourquoi ça te rend pourquoi ça, c'est intéressant pour l'homme, parce qu'en fait, tu vas comprendre comment fonctionne le corps de ta nana. Et en fonction de ce qu'elle te dit, par exemple, bah là non, là c'est la fenêtre, bah tu vois qu'il y a des changements subtils dans son corps et dans son comportement. Et donc là, tu deviens plus savant sur...
En tout cas, tu deviens plus savant. Tu sais, j'aime bien les gens qui parlent en jeu dans mon podcast.
Ah ouais?
Et j'ai remarqué que tu dis beaucoup de tu.
Ouais, bon ça j'ai du mal moi.
Parle de toi, s'il te plaît.
Ok. Donc je suis devenu plus savant.
En plus, tu vois, ça te donne des crédits, quoi. C'est trop bien.
C'est vrai.
T'es devenu plus savant. C'est pas, voilà. Je sais pas qui.
Je suis devenu plus savant sur le corps de Samantha et comment ça fonctionne. Et à la fin, je pouvais même anticiper. Je pouvais anticiper cette espèce de fenêtre où je savais repérer. En gros, je pouvais te dire, voilà, je sais que tu vas avoir tes règles dans 3 jours. J'arrivais à le savoir. Par rapport à sa peau, par rapport à...
Incroyable.
Par rapport à, voilà, à mon observation visuelle et au toucher aussi. Tu peux le savoir. Tu arrives à savoir des trucs. Toujours est-il que tu peux être très savant, mais qu'à un moment donné, si les deux font pas leur boulot, bah voilà. Donc, c'était arrivé, je crois que c'était un soir. On ne s'était pas vu depuis un moment. Et ni elle, ni moi n'avons abordé ce point-là. Parce que normalement, elle me dit, avant qu'on se chauffe, tu vois, ou qu'on saute
comme
dessus,
des
tu
animaux.
Vois, avant qu'on fasse du catch, elle me dit tout le temps, bon, alors c'est jour rouge ou c'est jour vert, tu vois, en fonction de attention ou c'est cool, t'inquiète. Et là, rien. Et moi non plus.
Parce que toi, si j'ai bien compris, t'étais au courant de ce qui pouvait se passer, quoi.
Voilà, mais j'y ai pas réfléchi. J'y ai pas réfléchi du tout, et elle non plus. Donc on a su le soir même, si tu veux, juste après, qu'en fait c'était le moment le plus... Genre, mais on aurait voulu le faire exprès, que c'était pas possible, tu vois. Genre, c'était la fenêtre absolument parfaite. Mais genre, nickel. Tu vois,
elle raconte qu'elle s'est sentie ovulée ce jour-là, etc. Enfin, tu vois, t'iras écouter son récit, quoi. Tu sens qu'il y a une forme d'acte manqué, quoi.
Ah, mais oui, c'est probablement, c'est probablement un acte manqué. Sauf que si t'es suffisamment ouvert sur toi-même, tu peux peut-être plus facilement reconnaître que c'est un acte manqué. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été suffisamment connecté à moi-même, puisque lorsqu'on a appris qu'elle était enceinte, ça me paraissait tellement pas du tout un chemin possible pour moi à ce moment-là, que j'ai mis en place toutes mes résistances et que je me suis dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre ça. Ça ne peut pas être mon destin. Ça ne peut pas être une partie de mon destin d'être père. C'est pas possible.
Il y a l'histoire de la pilule du lendemain aussi, qui est incroyable.
Ouais. Et pourquoi c'est, je disais effectivement que c'était vraiment la fenêtre, genre, mais la fenêtre, l'intervalle du diable, comme en musique, tu vois. C'est entre la, entre la quinte diminuée et la quinte augmentée.
Genre, paf, t'es technique.
Ouais, genre, tac, l'intervalle du diable. Parce qu'en fait, même la pilule du lendemain, ça n'a pas marché. Parce que c'était trop tard.
C'était sur le... En fait, la pilule du lendemain ne fonctionne pas si c'est le jour de l'ovulation, quoi. C'est ça. Je le savais pas, j'ai découvert.
Moi non plus, je le savais pas à cette époque.
Et donc, effectivement, le pharmacien, si je me trompe pas, Samantha m'a raconté qu'il t'avait dit est-ce que c'est le bon jour, le bon machin, et que tous les deux, vous êtes aussi tombés dans le panneau de...
Bah ouais, on l'a prise quand même. En se disant, bon, bah, de toute façon, il faut bien la prendre. Parce que Sam, en fait, à ce moment précis, Sam et moi, on...
C'est toi qui allais la chercher, d'ailleurs.
Ouais, je suis allé la chercher. Sam et moi, on est en mode, genre, oulala, catastrophe, quoi.
Ah, catastrophe.
Ouais, c'est la cata, quoi. Genre, oulala, oulala. Je me rappellerai toujours de... On était chez moi, dans mon appart, à l'époque, j'habitais à Pantin. Et... elle fait son test et puis j'entends « Oh ah, je suis enceinte !» Et là, je fais « Oh, chier, mais comment c'est possible? C'est pas possible. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. On est des snipers, quoi. Donc là, ta mission, enfin, moi, ma mission dans la tête, c'est, je me dis, bon, bah, il faut trouver une solution. Et où est-ce qu'elle en est, Sam, à ce niveau-là, au niveau de ce, comment est-ce que, voilà, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle est.
Il va falloir avoir cette fameuse conversation que vous n'avez jamais eue.
Il va falloir avoir cette conversation, puis aborder un sujet aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde cet enfant à naître ou pas? Et ça te place en fait sur un sujet qui est balèze. C'est-à-dire, est-ce que tu te situes pour elle et pour moi? Est-ce que tu te situes du côté de la vie? Ou est-ce que tu te situes du côté de la mort, en fait? En gros, c'était un peu ça notre débat, nous. Même si tu veux, il n'y a pas de... C'est une démarche, c'est super perso, et il n'y a pas de jugement sur le... Oui. Sur l'avortement, ni quoi que ce soit.
Bien
mais
sûr.
Pour nous...
En tout cas, à ce moment-là...
Pour nous, il y avait de la vie, là, tout de suite, là, maintenant. Il y a de la vie. Et pour Sam... plus pour elle que pour moi, c'est faire cette démarche d'IVG, c'est donc terminer cette vie potentielle, mais c'est aussi balancer un truc balèze dans le corps. Parce que Sam, elle a toujours été dans cette démarche d'amélioration de la santé, parce qu'elle est issue vraiment d'une lutte permanente pour la santé. Parce qu'elle a eu quand même des années d'errement médical. Je sais pas si elle te l'a dit.
Pas aussi clairement que ça, mais...
Elle a eu des errements médicaux de ouf, quoi. Genre, dû justement à la contraception, entre autres, mais pas que. Dû à des traitements anti-paludisme de... Non pas parce qu'elle avait le paludisme, mais pour éviter de le prendre. Aussi des traitements de roaccutane contre l'acné quand elle était ado. Donc, elle a eu le foie flingué. Et à un moment donné, quand on était au début de notre relation, elle cicatrisait même plus.
Ok.
Donc, si tu veux, c'est quelqu'un qui, à la maison, on a un dossier qui est épais comme mon poignet d'analyse médicale juste pour elle. Alors que moi, rien, tu vois. Mais elle, c'est ça. Donc, elle est allée de médecin, de traitement, de machin, de truc. Ensuite, du coup, elle a découvert la naturopathie. Et donc, à un moment donné, si tu veux, elle n'a pas la même sensibilité que moi à ce niveau-là. Donc, quand on a pris rendez-vous pour parler de l'interruption volontaire de grossesse, elle a dit... on nous a dit, oui, c'est une pilule qui va amener une énorme décharge d'hormones surpuissantes qui correspond à je sais plus combien de fois la pilule, qui elle-même correspond à je sais plus combien de fois la dose normale d'hormones. Et ça aussi, ça a pesé dans la balance. C'est-à-dire qu'en détruisant cette vie-là, potentielle, elle allait aussi mettre un gros punch dans son corps. Parce qu'elle lisait aussi des choses, forcément. Sam, dès lors que se passe un truc, Sam, c'est une machine. Elle va aller chercher des trucs, tchoc, 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 et puis elle va creuser. Et donc à un moment, elle tombe sur une phrase, elle lit en fait que quand il y a fécondation, le corps de la femme se met en mode fête. C'est genre, cellulairement, c'est une célébration. Et ça l'a fait travailler, tu vois. Ça l'a fait bosser dans sa tête. Et c'est là, en fait, à mon avis... C'est une des choses, pas la seule, mais c'est une des choses qui l'a fait basculer du côté de la vie. Et moi, j'en étais pas là.
On n'est pas dans un podcast anti-IVG. Entendons-nous. Hein. Mais
non, je précise, c'est juste mon avis à moi. Oui, oui. Et l'IVG, si tu veux, c'est pas le débat, en fait. C'est pas le débat. T'en as, tu sais, moi, je suis coiffeur et j'ai à peu près 400 clientes. Dont une partie assez importante de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont très contentes.
Ouais.
Et j'en ai d'autres qui le regrettent. Et donc, il n'y a pas de jugement, en fait. C'est un bond en avant technique. Donc, c'est même pas le sujet. C'est juste que quand tu es confronté à ça, qu'est-ce que tu fais et quels sont les ressorts qui vont te pousser à prendre telle ou telle décision. Et moi, si j'avais été seul à ce moment précis, si tu veux, si j'avais été le seul décideur, je serais parti sur l'IVG à ce moment-là. Mais Sam, elle, c'était son corps et elle avait un cheminement et elle était en train de basculer de ce côté-là. Probablement que ça a amené plein d'autres réflexions sur lesquelles j'ai pas de réponse, si tu veux, mais cette idée d'être dans le naturel, dans le flot naturel de ce qui est capable de faire le corps de la femme, ça lui parlait plus que d'aller interrompre
à l'encontre,
ouais. Interrompre, voilà, ce processus-là, okay. Tu vois. Elle avait l'âge qui était pour elle, tu vois, elle avait 30 ans, 29-30. Sauf que moi, j'étais pas du tout là-dedans, parce que je le vis pas dans ma chair, je suis l'homme, je suis pas du tout conscient de tout ce qu'elle est en train de vivre. Je le ressens pas dans ma chair. Moi, je ne vis à ce moment-là que avec mes blocages.
Oui, c'est ce que tu disais, voilà. C'est qu'il y a tes strates qui sont remontées là d'un coup d'un seul.
Tous les barrages, les pare-feux, exactement. Moi, j'ai dit pare-feux, exactement pare-feux. C'est tous les pare-feux qui sont mis en place et du coup, j'arrive pas à les faire sauter à ce moment-là. Tu vois. Donc moi, je suis du côté de ça. Et quand j'entends Sam me dire que quand je la constate en train de basculer de là, je me dis, il faut que j'arrive à la rejoindre à ce niveau-là, parce que sinon, la conséquence, c'est quoi ?
Sam m'a raconté que, en gros, il y a eu une semaine qui s'est passée entre la prise de rendez-vous pour l'IVG et l'opération en tant que telle.
Ouais.
Et qu'en fait, pendant cette semaine-là, elle a vu tous ses coachs, tous ses machins, en gros, tous les gens qui peuvent l'aider d'une manière dans sa vie, parce qu'elle est entrepreneuse, donc elle a aussi des gens qui l'accompagnent, qu'elle a un peu mobilisé toute sa petite armée, quoi, et qu'elle s'est confrontée au truc, qu'elle s'est mise à bosser, parce qu'effectivement, il y a un truc, je crois... Et pour moi, c'est un peu le drame ce qui est à la fois dramatique et génial dans cette histoire de parentalité d'une manière générale et de paternité. C'est qu'en tant que père, on est très extérieur au truc. J'ai l'impression que pour elle, ça a déclenché un truc. Mmh. Et quand on l'entend et quand tu me le racontes là, quasiment instantané en elle de « Oh, ouais. Bordel, ça y est, c'est là, quoi. »
Ça allait très, très vite.
Ouais. Là où en tant que gars, en fait, plus ou moins longtemps, on peut rester sur le quai de la gare, quoi, tu vois.
Ouais.
J'aurais aimé savoir, toi, ce que tu as fait pendant cette semaine-là. Parce que je connais l'issue, tu vas me la raconter. Mais pendant cette semaine-là, comment tu as vécu ce truc alors qu'elle, elle était en mode branle-bas de combat ?
Ouais, en fait, moi, j'ai décidé de... Quand je l'ai vue faire, elle m'a tenu au courant de tous les gens qu'elle voyait. Et je trouvais que ça faisait beaucoup de brouhaha autour d'elle. Même si je pense que ça l'a aidé au final, à l'instant T, moi je trouvais que ça faisait beaucoup de bruit. Donc moi j'ai fait l'inverse. Moi je me suis réfugié en moi-même.
Tu t'es reclus.
Ouais. Et j'ai fait silence. Et puis ensuite elle est allée voir quelqu'un, une espèce de comment on appelle ça, je n'en sais rien. Une espèce de, moi je l'ai appelée la sorcière. C'est une espèce de dame. Alors elle est allée voir cette personne et quand elle est revenue, elle m'a tout raconté et j'ai dit, ok, ça c'est elle que je dois aller voir. Voilà, ça c'est elle. Okay. Parce qu'il faut que je fasse sauter des trucs, mais il faut surtout que ce soit pas ma tête qui parle. Et donc, cette personne, j'y suis allé.
Oh, donc, t'es allé voir une sorcière.
Tu es allé voir une sorcière, exactement. En fait...
Tu savais pas du tout qui t'allais, mais c'est juste, tu t'es dit...
J'ai ouvert la porte et j'ai vu une sorcière des bois, tu vois. Complètement. J'ai vu une dame un peu trapue... avec un gros pantalon bouffant, des bottes, tu sais, des bottes de peau, tu vois, avec un grand manteau un peu patchwork, des cheveux bruns très noirs qui descendent jusqu'aux épaules, un peu ondulés, un teint un peu mat comme ça. Tu vois, bon, ok. Puis j'arrive dans un endroit, tu vois, un peu avec une lumière très tamisée, un endroit un peu chaleureux quand même. On rentre dans son bureau et là, je vois des dessins d'enfants, je pense, des dessins d'enfants, partout sur le mur, tu vois. Je suis bon, d'accord. Et puis, elle me prend les poignets et elle commence à baragouiner, tu vois, à poser des questions, mais pas à moi, tu vois. Comme si elle s'adressait à une entité au-dessus de moi, tu vois, je sais pas quoi. Bizarre, tu vois.
Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ?
Je me dis, bon, vas-y, débranche le cerveau.
Ouais.
Moi, j'aime bien faire ça. Débranche le cerveau et tu te laisses porter. Et
t'arrives à le faire ?
Ouais.
Ok, ok.
Moi, j'ai appris à le faire. Ouais.
De ce que tu racontes, t'as l'air d'avoir quand même pas mal de couches, donc c'est cool que tu... de couches de protection.
J'ai plein de couches, ouais. Mais à un moment donné, je laisse. Okay. Aussi. Quand la situation vraiment, elle est... Quand il faut y aller, faut faire silence. Mm. Bah, après, moi, je fais beaucoup de médite. Hein, donc,
Oui, puis j'allais dire, de ce que je perçois, j'ai jamais coiffé qui que ce soit. Et comme tu le vois, je suis pas beaucoup allé chez le coiffeur dans ma vie. Mais de ce que je perçois de l'activité de coiffeur, il y a aussi un truc très méditatif. Il y a aussi un truc très automatique. Peut-être je me trompe, hein, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mental dans la capacité que peuvent avoir les coiffeurs faire leur activité qui est manuelle, en plus de ouf, quoi.
Alors, il y a la tête marche quand même.
Ok.
La tête marche. Mais les oreilles fonctionnent beaucoup. L'écoute. Donc, quand tu écoutes, t'es pas en train de ressasser. Mmh. T'es à 100% derrière les gens.
Mmh. Ok.
Donc, cette écoute, déjà, elle peut te permettre un peu de te taire mentalement, tu vois. Ça aide. Mmh. Mais lorsque je suis arrivé chez cette dame et qu'elle m'a pris les poignets, qu'elle a commencé à poser des questions, très vite, trop vite pour que je puisse accrocher les wagons avec ma tête.
Ouais.
Et en fait, elle utilisait les impulsions de mes bras, par exemple, parce qu'elle posait des questions, mais elle avait la main sur mon poignet, comme ça.
Ouais.
Et elle appuyait dessus pour vérifier une certaine tension en fonction d'un oui, en fonction d'un non qui n'est pas la même, tu vois. Et c'est le corps qui parle, c'est pas la tête. Et alors après, attends, c'est un peu chelou, tu vois. Donc moi, je suis arrivé avec une question, tu vois, est-ce que je dois être papa et tout. Puis finalement, je me retrouve en fait avec à devoir parler à mes parents. Et là, elle me dit, bon, vous allez leur parler. Je dis, bon, d'accord, ok, mais il faut que j'aille en Bretagne, que je revienne, tout. Elle me dit, non, vous allez leur parler maintenant. Mais 650 kilomètres, enfin, je dois les appeler. Non, je vous laisse. Vous allez vous adresser au mur. Choisissez un endroit du mur et vous allez parler à votre père et à votre mère. Je reviens dans 15 minutes. Et elle se barre. Et toi, t'es là comme un con. Assis sur une chaise devant un mur avec des dessins d'enfants et tu dois causer à ta mère et à ton père.
Et qu'est-ce que tu leur as dit?
Donc là, tu vois, faut poser le cerveau vraiment parce que alors là, t'y arrives pas, tu vois. Donc ça, c'est vraiment à lâcher prise entre guillemets.
T'as réussi à mettre le cerveau de côté.
Je sais pas si j'ai bien réussi, mais en tout cas, j'ai mis du temps. Je me suis mis à parler tout seul, quoi. Donc j'ai abordé effectivement le sujet, puis j'ai essayé de...
Qu'est-ce que tu avais à dire à tes parents sur le fait de devenir père?
Il en est ressorti qu'en fait...
Et pourquoi tes parents?
Parce que ça vient de là, en fait, mes résistances. De ce que j'ai vu d'eux, en fait, ça m'a pas donné envie. Mmh. Ils ont fait... Et ensuite, moi, j'ai construit mon estime aussi, quand je suis devenu un peu plus adulte. J'ai été indulgent sur des trucs. En fait, je me suis dit, non, mais ils ont quand même fait de leur mieux et tout ça. Mais au final, de ce que j'ai vu en étant le fils d'eux, bon, j'ai eu une enfance, j'ai manqué de rien, tu vois. C'était cool, mais j'ai pas eu un rapport... j'ai pas eu assez d'attention et d'amour exprimé, tu vois. Ça a toujours été un peu froid pour, avec mon père. N'en parlons même pas, tu vois. C'était exigence un peu débile, tu vois. Mmh. Et en fait, il était là, le point central. Tu sais, c'est pas... finalement, c'est pas si étonnant que ça, tu vois. Mais moi, ensuite, j'ai construit encore d'autres choses très complexes, tu vois, pour atténuer ce que j'avais pu vivre. Quand je suis allé voir une autre coach bien plus tard, quand ma fille est née, je me suis aperçu que j'avais eu beaucoup d'indulgence sur certaines choses sur lesquelles j'aurais peut-être vraiment dû être un peu plus cash, tu vois, par rapport à des événements que j'ai pu vivre avec mon père, tu vois. Toujours est-il que, du coup, j'ai causé à ma mère et à mon père. Et quand elle est réapparue et que la séance s'est terminée, au bout d'un bon moment, et que je me suis délesté d'une somme non négligeable, je suis rentré et j'ai laissé un peu digérer tout ça. Et j'ai été beaucoup... Peut-être ça a fait sauter quelques pare-feux, mais tout ça est tellement profond et inconscient que tu t'en rends pas compte comme ça. Toujours est-il qu'on a eu cette discussion avec Sam sur mon petit canapé... Et qu'en fait, je me suis dit, Thomas, en fait, Sam va garder l'enfant. Voilà, Sam me dit, ben, moi, j'ai envie de le garder. Et moi, je me suis dit là, mais ok, bon, bon. Ok, bon, mais l'alternative, c'est quoi? Tu dis non? Et ta nana, du coup, c'est fini et ta fille grandit sans toi? Ben, c'est débile, quoi. Et en fait, pour que j'arrive à me dire ça, il fallait...
C'est un peu un... Enfin, de l'extérieur, en tout cas, je connais la suite de l'histoire, mais de l'extérieur, et je pense à des mecs qui peuvent nous écouter, tu vois, qui ont pu se retrouver dans des situations comme ça, il y a un peu un... C'est un peu un couteau sous la gorge, quoi. C'est ok, bon, bah... Et finalement, en tant que père, encore une fois, il y a un peu ce truc de « Ah bah merde qu'est-ce que je fais maintenant, quoi ?» C'est-à-dire que c'est pas, je suis pas décisionnaire. Qu'est-ce qui t'a fait basculer?
En fait, je me disais effectivement que l'alternative à ça n'était pas drôle.
Euphémisme, quoi.
Euphémisme, ouais, tu parles. Ouais. Ouais.
C'est dramatique.
C'est un drame, ouais. C'est dramatique, tu vois. Et je me disais qu'en pleine possession de tous mes pare-feux, j'aurais été capable, il y a quelques années, avec tous mes pare-feux, j'aurais été capable de me tirer quand même.
Ah ouais?
Si ça avait pas été Sam, si je l'avais pas fait exprès, tu vois. Mais en gros, j'aime tellement cette femme. Et je faire sauter des pare-feux comme ça t'ouvre une curiosité. Donc la femme, Samantha, me dit, j'ai envie de le garder. Elle me dit pas, je vais le garder absolument. Elle dit, j'ai envie de le garder. Bon, moi, je sais qu'elle ne reviendra pas en arrière. Mais en fait, j'essaye de comprendre sa démarche pour pouvoir un peu se dire... Elle, en fait, elle, pour moi, vraiment, c'était... Elle dit oui à la vie, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi moi, pourquoi j'ai du mal à dire oui à cette fille? Pourquoi je n'ai pas envie de... Tu vois?
C'est
pourquoi
puissant.
Est-ce que je veux pas... pourquoi est-ce qu'à ce point, je veux rester centré autour de moi? C'est pour ça que j'ai du mal à estimer que c'est égoïste. Parce qu'en fait... j'ai fait tout un trajet justement pour un peu me défaire de de ce centrisme sur moi, me dire plutôt mais ouvre-toi à une vie qui va arriver, quoi, plutôt que de te dire, tu vois. Et là je me suis rappelé de mes clientes, notamment de certaines de mes clientes qui ont 50, 60 ans, qui n'ont pas eu d'enfants. Donc là c'était pour faire pencher ma balance, tu vois, et qui ont eu des carrières certes sympas, mais qui n'ont pas eu des carrières non plus absolument dingo, quoi, et qui sont un peu seules et qui sont un peu tristes et qui sont un peu sur le regret, ces personnes-là. D'autres non.
Bien sûr.
C'est à elles que j'ai pensé pour me faire pencher dans un côté plus que dans un autre. Et à un moment donné, je l'ai regardé et puis je me suis dit, bah ok, on va être papa, on va être maman, ça va être chouette. Et à partir de ce moment-là, c'est bon.
T'avais pris la décision.
C'est bon, c'est fini. C'est bon, je vais être papa. Et c'est ok.
Oui, t'es pas aujourd'hui là en train de venir exprimer des regrets infinis.
Pas du tout, non, effectivement, non. Non, pas du tout. Au contraire. En fait, ça...
Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? J'ai l'impression que tu dis t'as ouvert un truc. Qu'est-ce que t'as ouvert?
En fait, j'ai ouvert la case « oui ». Eh oui, parce que moi, je suis dans le non, tu vois.
Tout le temps?
Souvent.
Très souvent.
Non. Moi, j'ai appris à dire non. Et j'ai souvent dit oui pour faire plaisir aux autres. Et quand j'ai dit oui, j'ai bien fait attention de me dire il ne s'agit pas de faire plaisir à Sam, là.
Oui. En tout cas, pour ce oui-là.
Ouais, pour ce oui-là.
Donc c'était un oui, il fallait que ce soit un oui conscient, là.
Ouais. Mais c'est quand même un oui qui comporte 40% de je sais pas trop ce que je fais quand même. Encore. Mais il y avait quand même 60% où tu dis, mec, en fait, ce que tu vas vivre va être fou. Bah, ça va être génial.
Il n'y avait pas de non, j'ai l'impression.
Hein?
Dans ton oui, il y avait du oui, il y avait je sais pas trop.
Ouais.
Il y avait du non?
Non, c'était pas du non.
Ouais.
C'était du je suis un peu inquiet.
Normal.
J'ai un peu la trouille, mec. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
Ça me paraît intelligent d'avoir la trouille.
Ouais, moi j'ai envie de dire, Après, j'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres références parce que tu vois, j'ai deux très bons amis et eux, ils ont voulu avoir des enfants, tu vois. Ils ont voulu, donc ils s'y sont allés, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup pensé, si tu veux, à ma famille et pourquoi elle m'a fait m'adresser à mes parents, la sorcière. Parce qu'en fait, mon père voulait pas d'enfant, initialement. Et ma mère lui a fait un enfant dans le dos, c'est-à-dire ma sœur.
Voilà, okay.
Ma sœur est née.
Donc, moi, t'étais un peu en train de reproduire potentiellement le schéma, quoi.
C'est ça.
Putain.
Donc, moi, j'étais désiré, parce que je suis arrivé 3 ans et demi après, mais ma sœur, initialement, non. Donc, mon père s'est barré. Il s'est barré. Il s'est crashé en voiture. Et il a fini à l'hôpital.
Tu veux dire le jour même ?
Le jour même.
Ah oui ?
Ouais.
Il a conduit comme un taré.
Ouais.
Il se fout dans un platane, quoi.
Ouais, okay. Il s'est planté tout seul, je crois. Et il est allé à l'hôpital, puis ça lui a remis les plombs en place et il a accepté. Et j'ai construit des trucs autour de ça, moi.
Bah, tu m'étonnes.
C'est-à-dire que je l'ai déresponsabilisé par rapport à ça, mon père.
Ah !
Tu vois ?
Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Moi, j'ai accusé ma mère d'avoir fait ça. Et j'ai innocenté mon père. Mmh. Et du coup, face à ce jugement de ma part de mon père, je lui ai fait passer plein de trucs qu'on a fait et qui n'étaient pas cool, tu vois. Qu'il n'aurait pas dû. Mais j'ai été plus gentil avec lui. Mais j'ai construit des tas de trucs là-dessus.
Ok.
Et en fait, mon père a sa part de responsabilité. Il avait qu'à engager le dialogue. Il avait qu'à, si tu veux, causer, dire
Commencer
ce qu'il pense.
Commencer par mettre une capote.
Commencer par faire un peu gaffe, à s'intéresser au corps de sa nana. Mm. Tu vois ce que je veux dire ? Il a sa responsabilité entièrement. Et ça, je ne l'ai découvert qu'il y a quelques mois. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, genre le début de process de la grossesse de Sam. Tu vois ? Même après. Et là, je me suis dit, bah oui, mais en fait, le socle commun du non, en fait, je suis content parce que je l'ai cassé quand même en me disant, déjà en m'intéressant, si tu veux, vraiment à Sam, tu vois, comment ça fonctionne son corps, tu vois. Ça, c'est un truc super puissant. Je pense que ça a pesé aussi dans la balance du oui pour moi, ça.
C'est-à-dire ?
Comprendre comment fonctionne le corps de Sam. Tu vois ?
Tu te sentais, contrairement à ton père, j'ai l'impression que... Mais on n'en a pas parlé. Tu te sentais une responsabilité dans cette grossesse ?
Ah ouais, clairement. Bah oui, bien sûr. Mais c'est les deux. Hein.
Mais c'est ultra puissant, je trouve, de la part de Sam, de t'avoir co-responsabilisé sur cette contraception qui tourne centrée autour d'elle. Hein. Donc j'ai bien compris que les jours rouges, c'était plutôt à ton tour de faire gaffe. Sauf... quand le gars a décidé de ne pas s'en occuper. Mais je trouve ça hyper fort et pour moi, c'est très inspirant, en fait. C'est-à-dire que j'entends trop de mecs dans ce podcast venir dire « Non, mais moi, je ne voulais pas de cet enfant. » Et tu vois, à chaque fois, les premières années, j'étais là « Ok, bon, d'accord. » Là, aujourd'hui, systématiquement, je suis là « Frérot, quid de mettre une capote, en fait, à un moment donné, tu vois ?»
Complet.
Donc, c'est trop bien que ça m'ait... Et que tu viennes raconter toi aussi ton histoire de... Non, mais en fait,
je vais te conter d'ailleurs un truc assez perso qui remonte à loin. Ma première expérience avec une fille, j'avais 17 ans. Et elle était pareil, elle avait le même âge. Mais elle paraissait beaucoup plus âgée. Et on est restés ensemble presque 3 ans. Eh ben, elle est tombée enceinte de moi. Parce qu'elle faisait n'importe quoi. Donc moi, en fait, très tôt, sur ma première relation, j'ai aussi été confronté à ça, tu vois. Et tu sais, elle me l'a annoncé par lettre le jour de mon anniversaire. Elle me dit, tu sais, j'étais enceinte, j'ai dû avorter, je t'en ai pas parlé, machin.
Ah, elle te l'avait pas dit ?
Non. Première relation sérieuse, tu vois. Donc ça aussi, ça pèse dans la balance.
Je vais vous mettre un lien vers l'histoire d'Hervé Pochon, qui est un podcasteur incroyable, qui raconte qu'il a appris qu'il allait devenir papa par lettre également.
C'est ouf, hein. C'est peut-être mieux qu'un texto, mais quand même.
Moi, c'est un peu personnalisé, quoi.
Voilà. Moi, t'as pris le temps d'écrire. Aujourd'hui, on en est là. Mais voilà, si tu veux ça, comme première relation sérieuse où il y a du charnel vraiment, du rapport sexuel, tu vois, ça te responsabilise aussi quelque part, tu vois. Et depuis ce jour-là...
En tout cas, ça t'a responsabilisé.
Ah bah oui, ça responsabilise. Parce que si tu veux, moi, 17 ans, première relation, tu veux, je sais pas trop, tu vois. Mais dans ma tête, je me rappelle très bien me dire, elle a pas l'air non plus très responsable. Mais j'avais pas encore assez, tu vois, d'estime et de confiance en moi pour dire, écoute, tu veux pas non, enfin, tu veux pas faire quelque chose, hein, c'est un peu n'importe quoi. Je lui faisais confiance, tu vois. Je dis, non, mais t'inquiète, je gère.
Puis t'aurais pu mettre des capotes aussi.
Bah oui, mais c'est ce que, à l'époque, ça ne me posait aucun problème. Ça lui en posait à elle.
Ah, yes.
Et donc, elle me disait, non, non, mais non. Et je dis, mais bah, oui, mais non, mais t'inquiète pas, c'est bon. Et boum, tu vois.
Les jeunes gars et les gars d'ailleurs, prenez en charge votre contraception. Hein.
Ouais, en fait, ça vous regarde vous. Si la nana dit non, ben dans ces cas-là, on engage une conversation. Quoi. Il y a une conversation à engager.
Clairement.
C'est, tu sais, comme toutes les coupes de cheveux foirées, à chaque fois, c'est un problème de communication. C'est rarement un problème de capacité technique du coiffeur. C'est souvent, vous vous êtes pas compris, les gars, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a, il y a la cliente pensait à un truc, et toi, tu pensais à un autre, t'as pas suffisamment parlé. C'est toujours un problème de communication, tout le temps.
Est-ce que t'as vu cet extrait de Fleabag, qui est une série que j'adore, où à un moment donné...
Je connais pas Fleabag.
Ah, tu vas, alors je vais vous mettre cet extrait dans les liens, et je vais te l'envoyer.
Ouais.
C'est sa sœur qui vient, cette série est incroyable, sa sœur qui vient et qui lui explique... en fait elle est vraiment coupée, elle dit on dirait un taille crayon, elle dit on dirait un crayon gris, quoi. Et en fait elle va voir le coiffeur pour se plaindre et il dit non, montre-moi ton inspiration là. Donc ils vont chercher le en fait effectivement c'est exactement la même gueule. Elle lui dit écoute, et le coiffeur lui dit écoute, viens pas me faire chier, en fait si t'as des problèmes dans ta vie, rien que des problèmes dans ta vie, c'est pas ici que je vais régler tes problèmes. Tes coupes de cheveux en changeant de cheveux. C'est tellement vrai.
C'est pas faux. Hein.
Et pourtant, elle a toute une tirade aussi où elle dit « Hair is everything !» Tu sais, où elle, vraiment, elle explique qu'effectivement, pour les femmes, il y a un vrai truc très important autour des cheveux, quoi, tu vois.
Bien sûr. Bref. Bien sûr, puis ça remonte à l'Antiquité. Hein.
Ben oui, je te l'enverrai, tu vas voir, c'est trop bien. C'est,
écoute, avec plaisir.
Cette série, si vous n'avez jamais vu cette série, je vous invite à aller regarder. C'est sur Prime Video.
Ok, bah écoute, je retiens. Hein. Je retiens.
Bref, pourquoi je te racontais ça ? Je ne sais plus. Tu parlais des cheveux.
En fait, je disais que c'était un manque de communication à chaque fois. Et que du coup, effectivement, bah, le fait que je n'ai pas cherché à engager la conversation avec cette nana à l'époque fait que du coup, j'ai été confronté à l'IVG et au fait d'être papa, mais genre un bref instant, enfin, j'en sais rien, tu vois, à cette réflexion bordélique, mais genre un peu tôt, quoi, tu vois.
Comment se passe la rencontre avec ta fille ?
Oh. Alors, c'est bien que tu me poses cette question parce que à partir de quand j'ai rencontré ma fille, ben en fait, pour moi, j'ai rencontré ma fille quand je l'ai eue dans les bras. Même si on a fait un petit peu de
d'autonomie,
j'oublie à chaque fois le mot. C'est sympa, mais bon.
Ça t'a pas. Ouais.
C'est pas assez concret. Alors, tu
t'avais remis du mental là. C'était dur de venir.
Probablement, ouais, tu remets du mental, mais en même temps, tu vois le corps de ta femme qui change, donc tu te dis c'est en train d'arriver. Tu sens les petits coups. Il y a moins de mental qu'avant quand même. Hein. Mais je me souviens un matin, Sam me réveille, fait ça comme ça, et elle me pose la main sur son ventre et je sens des petits. Des tout petits coups comme ça. Alors qu'elle n'avait pas encore de boss, ni rien. Je me suis dit, nom de Dieu, déjà ? Et déjà ? Avec, effectivement, tu t'y intéresses, mais c'est pas aussi physique que le vit ta nana, quoi. Dans sa chair.
Par
comparaison, tu te sens un peu, forcément, c'est un peu théorique. Donc tu la rencontres. J'ai rencontré ma fille au terme d'un accouchement long et un peu difficile. Et on me l'a mis dans les bras. Et j'étais tout seul avec elle parce que Sam a eu une césarienne, donc elle était en train de se faire recoudre. Donc j'ai eu ce moment privilégié où j'ai vu en fait ce petit être comme ça, qui me regardait en plus avec une intensité, genre comme ça, du coin de l'œil. Ça. Et en fait, on était peau à peau, tu vois. Moi, j'étais en bleu parce que j'ai eu la chance d'être au bloc aussi, côté tête, pour soutenir Sam. Il faisait d'ailleurs tellement froid dans ce bloc. C'était ouf. C'était glacé, mais... Et donc, du coup, on m'a donné ma fille et puis on m'a escorté dans une petite salle où j'étais tout seul avec elle pendant 20 minutes.
Et alors ?
On parlait de pare-feu. Tu vois,
ils ont tous sauté
en même temps, écrabouillés, tu vois, genre pulvérisés, réduits en poussière. En fait, j'ai écrit tout ça sur plusieurs dizaines de pages en détail, ce que j'avais besoin de me rappeler. Et je me rappelle que j'écris que j'ai été broyé, tordu, déchiré.
C'est violent.
Ouais, c'est super violent. D'émotion. Tu vois, mais comme si c'est venu, en fait, ça a tout défoncé et puis c'est resté.
Oui, j'allais dire, comment tu ressors de t'être fait broyer, tordu
J'en suis ressorti tout neuf. Quelqu'un d'autre. Toujours le même, mais quelqu'un d'autre.
Raconte-moi plus, ça, ça m'intéresse.
Il y avait tellement de noms en moi. Du nom, du... des idées, des trucs un peu arrêtés. Et tout a volé en éclats. En gros, je me suis pris un tsunami, un raz-de-marée, tu vois, genre une crue violente qui vient, qui défonce tout. C'est sale, tu vois. C'est boueux, ça casse tout, c'est des morceaux partout, puis ça s'en va. Puis c'est tout nickel après. Et puis c'est plat, hein, c'est... c'est lisse comme ton crâne.
Merci pour cette dédicace.
Je pensais, tu vois, un truc lisse.
Ah bah, c'est lisse.
Et comme il y a une magnifique lumière sur ton crâne, ça brille.
Je suis en contre-jour.
Je me suis dit, c'est lisse, tu vois. Et en fait, ça m'a laissé tout neuf. Tout neuf. Mais il a fallu, encore une fois, faire une destruction créatrice un peu, tu vois. Genre, comme ma rencontre avec Sam, où il a fallu détruire. Et bien, j'ai eu la sensation de me faire détruire une partie de moi-même. C'est pour ça qu'il y a une sorte de violence émotionnelle, aussi de toute une émotion de... En gros, comme si j'avais toujours une espèce de passoire sur le réel, tu vois, qui permet de filtrer, pour pas me prendre le réel trop fort, tu vois, je mets des filtres, comme tu disais tout à l'heure, des filtres, des prismes pour pouvoir être bien confortable, tu vois, pas me sentir atteint. Et en fait, quand ton bébé arrive, il éclate tout et tu te prends toi ton réel dans la gueule et puis vas-y, déguste.
C'est un truc que je constate quand même chez beaucoup, beaucoup de mecs, c'est que effectivement, les pare-feux,
ils sautent.
Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, les pare-feux empêchent la douceur.
Mais
en fait, pour que les pare-feux sautent, c'est obligé d'être violent. C'est obligé de détruire, c'est obligé de flinguer, c'est obligé d'être dans une violence vraiment violente.
Tu es complètement d'accord avec
là
toi.
Là où j'ai l'impression que pour beaucoup de femmes, qui sont beaucoup plus ouvertes, tu vois, j'ai l'impression que pour Sam, ça s'est passé beaucoup plus doucement, même si l'accouchement a été dur pour elle, j'ai bien compris que c'était chiant, là, cette césarienne, c'est pas du tout prévu, etc. etc.
Ouais, c'est elle a douillé. Hein.
Mais disons que j'ai l'impression que... elle est devenue maman de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus... Déjà pour elle-même, on verra. Là où c'est vraiment un truc que je constate
chez
beaucoup de mecs, tu vois. C'est cette obligation d'être dur et d'être violent envers soi-même, quoi.
C'est une femme, en fait.
Ouais.
C'est une femme.
Ouais, mais c'est un peu... Enfin, j'aime pas, tu vois, ce côté. Ok, c'est une femme, c'est un homme, donc forcément. Mais pour moi, il y a un côté
tu
aussi...
Sais, bah, tu le sais, mais... Sam et moi, on est très dans comprendre comment ça marche. Et donc, quand t'étudies un peu la physiologie de l'homme et de la femme, bon bah t'es obligé de reconnaître qu'un homme c'est un homme et une femme c'est une femme. C'est comme ça, c'est designé pour ça. Et Sam et moi, on s'émerveille de l'ingénierie intérieure du corps de la femme, mais aussi de l'homme d'une certaine manière. Et donc le trajet de la parentalité de l'homme et de la femme, bah, ils suivent des chemins très différents, tant qu'ils restent un peu parallèles, tu vois. Mais en fait, effectivement, nous, on va se prendre des... C'est obligé d'être violent et on est obligé d'avoir des pare-feux parce qu'être un homme, c'est une vie différente que d'être une femme. Et quand bien même on ferait le même job et on aurait les mêmes responsabilités, c'est quand même pas pareil, on vit quand même pas les mêmes choses. D'un point de vue biologique et physiologique, on vit pas les mêmes transformations. Et puis on n'a pas le même rapport aux choses, on n'est pas câblé de la même manière. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs qui divergent. Le but, c'est de rester en parallèle, tu vois, parce qu'au milieu, il va y avoir un petit bout de chou, tu vois. Mais moi, j'ai vécu ça, effectivement, de façon violente. Apparemment, de ce que tu dis, bah, c'est pas original.
C'est pas que c'est pas original, c'est juste qu'il y a beaucoup de mecs qui sont obligés de passer par la violence, mais parce que les pare-feux, mais parce que l'éducation... Parce que on leur dit soit un homme, soit un homme mon fils. faut que tu montres le moins possible, faut que tu sois plus dans le mental que relié à tes émotions.
Ouais,
etc.,
même si
etc.
on même si on le dit pas comme ça, au final c'est comme ça que tu vas un peu le faire. Un peu, ouais, on te dit voilà.
C'est un peu les messages sous-jacents implicites qu'on te dit en tant que mec, quoi, tu vois.
Moi, ce que je constate aujourd'hui, depuis qu'il y a l'arrivée de ma fille, c'est que moi, je suis capable de switcher. C'est-à-dire, je switch en mode guerrier, je switch en mode sans pitié, je switch en mode papa.
Comment tu switches ?
Comme ça.
Comme ça.
Tac. Je vois ma fille, c'est bon. Câlin, douceur, attention, regard, présence. Et puis, quand je sors et que je dois faire un truc... Ben, cette personne-là, c'est encore là parce que c'est moi, mais hop, moi je mets d'autres, je change la juxtaposition du puzzle et puis ça devient un truc. Voilà, et en fait tu switches comme ça.
Ok.
Voilà, c'est ce que j'ai. Mais si tu veux, là où c'est magnifique, c'est de te dire qu'il y a quand même un élément suffisamment puissant pour t'avoir fait sauter tous ces pare-feux pour que tu puisses rencontrer cet homme que tu connais pas. Ce papa que t'as jamais vu, que tu connais pas, et que tu vas rencontrer de plein fouet. Ben ça, c'est dur.
Qu'est-ce qui est dur?
C'est dur aussi, parce que, tu vois, t'as ton bébé dans les bras, ça fait sortir... moi, chez moi, ça a fait sortir un truc très fort. Ça a fait sortir l'instinct de protection. Que je pensais pas avoir à ce point, tu vois. Espèce de créature qui est prêt à fracasser n'importe qui touchera un cheveu de ce petit bébé, tu vois. Tout à coup, genre en une fraction de seconde, mets le bébé dans les bras, t'es prêt à mourir pour elle. Tout à coup. Et ça, c'est quand même...
En tout cas, je suis prêt à mourir pour elle.
Ouais, je suis prêt à mourir pour elle, ça c'est sûr. C'est bien de me remettre en moi-même. Et en fait, effectivement, t'es prêt à mourir pour elle. Enfin, je suis prêt à mourir pour elle. Tu vois, j'y arrive pas.
C'est dur, hein.
C'est dur. Tu vois, c'est très dur, ça. Tu le prends dans la figure encore, tes émotions. Donc, tu te rencontres aussi.
Je me rencontre aussi.
Donc, je me suis rencontré.
Ouais. C'est tellement important de mettre du jeu à ce moment-là.
Ouais. Je me suis rencontré aussi à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai dû faire appel à une coach pour m'aider un peu.
Ouais.
Parce que j'étais...
Perdu?
J'étais perdu, peut-être pas, mais j'étais submergé par des émotions extrêmement fortes parce que mes pare-feux avaient sauté.
Il fallait reconstruire, quoi, comme tu disais.
Ouais. Fallait arranger, quoi, parce que là...
Qu'est-ce que t'as fait avec cette coach? C'était quoi le... Parce qu'il y a toujours un objectif.
On a travaillé sur la présence.
Ok.
Ouais, elle m'a fait vraiment travailler sur ma présence. Voilà. Sois là, mec. En gros. Sois là. Travaille. Sois là. Tangible. Sois présent et kiffe un peu. Arrête de penser à ce qui pourrait arriver, qui n'arrive pas. Arrête d'imaginer des trucs qui sont pas là. Sois là. Sois là, alors fais des exercices physiques pour te remettre dans ton corps. Parce qu'effectivement, comme tu l'as très justement dit, j'étais très cérébral, je le suis beaucoup moins maintenant. Mmh. Et donc, j'avais parfois même des absences. C'est-à-dire que je peux quitter un peu mon corps, tu vois, pour être dans une espèce de réflexion. Et puis, allô, t'es plus là, mec, reviens. Sois là un peu, tu vois.
C'est dur à faire, ça.
Très dur. Mmh.
Quand t'as pas été habitué. 40 balais.
Voilà. Par contre, c'est génial. Le trajet est génial. Mmh. Le trajet est fabuleux. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de séances avec, avec cette, cette coach qui m'a bien challengé, quoi. Fait faire des trucs. Elle te fait aller un peu au fond de toi-même. Elle m'a fait aller vraiment dans des recoins un peu difficiles. En gros, il y a un moment donné, je me dis maintenant, bon, la ferme. Sois là. Présent. Mm. Ben, tais-toi. Tais-toi. Allez, arrête. Tu vois. Et en fait, c'est juste super. Mm. Je suis là avec ma fille. Il y a beaucoup moins de stress. Il y a beaucoup moins de bruit de fond. Et tu regardes ta fille dans les yeux. T'es vraiment là.
Je regarde ma fille dans les yeux.
Ouais.
Je suis vraiment là.
Je suis vraiment là.
C'est cool.
Et elle le sait. Elle le,
j'imagine
elle le voit
qu'elle
bien.
Le sent.
Elle le voit
bien. Bien sûr.
Elle me regarde comme ça et je vois bien qu'il y a une connivence qui se crée. Et puis elle vient vers moi et puis une petite tape sur l'épaule, genre, c'est cool, merci papa.
Est-ce qu'il y a un sujet dont t'as pas abordé, sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé aborder, que t'aurais aimé aborder ici?
J'ai pas l'impression comme ça. J'ai l'impression qu'on a fait des circonvolutions, plein de trucs, mais que finalement on a abordé plein de trucs, mais. Peut-être je dirais qu'aujourd'hui, je dirais juste peut-être qu'aujourd'hui, je trouve que c'est pas un message à destination des gens particulièrement, mais je dirais que au début, je ne voulais pas d'enfants. J'étais même assez indifférent aux enfants. Assez indifférent aux parents. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire de vraiment, je m'en fous. Je suis presque devenu quelqu'un qui dirait n'ayez pas peur, les gars. N'ayez pas peur, c'est une aventure. Et en fait, moi, ça m'a rendu, je pense, meilleur. En moi-même, mon rapport avec moi-même est meilleur qu'avant. Et puis, c'est une découverte, une façon d'aimer que vous connaîtrez jamais si vous le faites pas. Parce qu'on aime son enfant d'une manière différente qu'on aime sa nana, son père, sa mère, son chien, son chat, son poisson rouge, sa tortue, ce que tu veux, tu vois. C'est une façon d'aimer différente. Ça vaut le coup de le vivre dans sa vie. C'est pas un message pour inviter les gens à le faire, mais c'est un message pour dire si jamais il y a un doute, c'est bien de penser à ça, de se dire c'est quand même chouette. Et puis un dernier sujet, je sais pas si Sam elle t'en a parlé, mais comme on peut couper et faire ce qu'on veut, je vais y aller à fond. Nous, on a été choisis, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on fait des enfants et il y a fécondation et boum, ça y est, ça marche et on est décideur de tout. Moi, j'ai vécu des choses assez étonnantes. C'est-à-dire que Sam a été en conversation avec ma fille pendant 3 mois, pendant les 3 premiers mois.
Elle m'en a parlé un peu.
Voilà. Donc. Du coup, j'ai la sensation, si tu veux, que, du moins, j'attends le moment où ma fille va me demander « Papa, pourquoi est-ce que je suis né ?» Et je serais très heureux de lui dire que c'est elle qui a choisi ses parents, et pas l'inverse. assez perso, tu vois.
Oui.
Mais Sam a vraiment parlé, était en conversation avec une entité qui n'était pas moi ni sa petite voix intérieure. Et j'ai même posé des questions. Et en même, enfin, j'ai dit, demande-lui ça. Mm. Et elle répondait. Avec un humour que je lui reconnais maintenant. Et c'est pour ça qu'on a su que c'était une fille tout de suite, puisqu'elle nous l'a dit.
Ça m'a dit, oui.
C'est un truc assez ouf, dingue, quoi. Et donc, bah, du coup, j'ai l'intime conviction qu'en fait, bah, tu crées une matrice biologique et qu'une arme, une âme s'incarne dedans. Donc voilà, comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas, et que Sam le vit, on est assez en parallèle là-dessus. Et du coup, bah, ma conception de faire des enfants, elle est aussi en mode je t'accueille plus que je ne te désire pour moi. Je t'accueille, mais j'ai pas de projection sur ma fille. Puisqu'en fait, je l'accueille et j'ai déjà, il y a déjà une âme, en fait. Donc en fait, qu'est-ce que je vais te dire, fais ci, fais ça, ou sois comme ci, sois comme ça pour moi. C'est en ça que...
Ça change tout. Hein.
En ça que le regard égoïste où je le fais pour moi, non. Bah non, mec, parce que moi, j'ai lutté jusqu'au bout pour dire non. Et qu'au final, j'ai dit oui, parce qu'à un moment, je me suis ouvert. Et qu'après, j'ai eu ce témoignage où je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un d'existant déjà, qui va juste s'incarner dans un corps, et qui va du coup se mêler à ce corps. Et que ce corps va aussi avoir un impact très fort. Donc, il y a un fond, il va falloir apprendre tout, le monde, la société, tout. Mais qu'il y a un fond comme ça, immense, qui est l'âme, qui est déjà là. C'est comme ça, d'ailleurs, que t'as des... C'est comme ça que moi, si tu veux, je traduis le fait que tu peux avoir des jumeaux qui sont fondamentalement différents, ils viennent de la même matrice, ils viennent même du même ovule. Tu vois ? Et pourtant, pour avoir connu plusieurs jumeaux... T'as rien à voir, les gars, quoi. Rien à voir. Physiquement, c'est les mêmes. C'est rien à voir. Te dis, bah, il y a déjà des âmes à l'intérieur. Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Moi, je me dis, c'est cool de le voir comme ça. En plus, c'est la vie physique et puis la vie.
Et puis, je trouve que ça, en fait, cette histoire ou je ne sais pas, en fait,
cette interprétation,
tu vois, c'est un truc qui t'appartient, j'entends bien. Moi, je trouve que dans le concret, dans le réel, ça. T'ouvre à une parentalité qui est hyper intéressante, qui est en fait j'accueille ma fille, et rien que ça en fait.
Je suis complètement d'accord avec toi, c'est la conclusion qui est intéressante.
J'achète entre guillemets cette interprétation parce que ça crée le père que t'es aujourd'hui, de façon complètement différente. En tout cas, ça te donne une forme d'intention qui est complètement différente vis-à-vis de ta fille.
Ouais, c'est très bien dit, l'intention est différente. C'est-à-dire, voilà, tu vas, j'ai l'impression d'être plus une famille d'accueil. Et d'avoir été choisi. D'avoir été choisi pour devoir. Parce que j'aurais peut-être un chemin à faire. D'avoir été choisi parce que j'ai un tas de choses qu'elle a choisi elle. Et qu'elle a aussi peut-être confiance sur le tas de choses que je dois changer.
Ben elle t'a fait bosser en tout cas, j'ai l'impression.
Putain, oui.
Et c'est pas fini.
Ouais, c'est que le début.
J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités.
Ouais.
Thomas, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta fille si elle écoute ce podcast dans 10 ans?
Elle aura 12 ans. Ouais, papa.
Je peux avoir un iPhone. Oh, punaise. Alors.
Elle aura déjà son iPhone intégré directement dans une puce. Cérébrale.
Non, on aura quitté le pays si c'est obligatoire. On aura quitté le pays, hein, t'inquiète. Je suis contre le puçage des êtres humains et des animaux, mais bon.
C'était une vanne, Thomas.
Ouais, non, mais tu sais, on le fait déjà.
Oui.
On le fait déjà. Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais à 12 ans si elle écoute ce podcast? Merci. Tout simplement. Voilà.
Mic drop. Merci Thomas, c'était très chouette.
Merci à toi.
Et effectivement,
très heureux de
trop bien de vous entendre tous les deux en parallèle. J'espère que tu va aussi aimer le... Parce que t'as pas du tout encore entendu le récit que Sam m'a fait, quoi.
Non.
J'ai hâte d'avoir vos retours sur le récit respectif que vous aurez fait de...
Je l'écouterai avec attention. Histoire.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.